Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Les femmes à l'honneur à l'occasion de la Journée mondiale de la femme ce samedi, nous vous proposons de faire la connaissance avec une sœur burkinabèse qui aide avec ses consœurs des femmes souvent livrées à elles-mêmes. Le pape a écrit au président chinois, qui lui a répondu, l'occasion pour nous de revenir sur les relations entre le Saint-Siège et la République populaire de Chine, des relations complexes. Les évêques américains et mexicains s'uniront à la fin du mois sur leurs frontières en mémoire des victimes de l'immigration clandestine. Ils veulent ainsi mettre en lumière le drame que vivent des milliers de latino-américains partis à la recherche d'une vie meilleure. En cette période de carême, nous vous proposons les réflexions de Mgr Dornelas, archevêque de Rennes. Il bat en brèche l'idée selon laquelle le carême serait un temps d'austérité. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Les femmes à l'honneur donc en ce 8 mars dans le monde entier, y compris au Vatican. À l'occasion de la Journée mondiale des femmes, en effet, une initiative originale appelée Voix de foi se tiendra au sein de la Filmothèque du Vatican samedi, organisée par la Fondation Götz Fidel, une organisation du Liechtenstein qui récolte des fonds à des fins de bienfaisance et pour des associations caritatives catholiques, elle donnera la parole à des femmes qui s'engagent au quotidien pour améliorer le sort de leurs prochains. En tout, les histoires de 11 femmes originaires de différents continents seront racontées. Elles parleront notamment de leur histoire personnelle de foi. 4 femmes seront par ailleurs présentes dans la salle pour répondre ensuite aux questions des spectateurs. Nous profitons de cet événement et de cette journée pour vous parler d'une femme qui, elle aussi, grâce à sa foi, agit pour le bien de sa communauté. Sœur Yvonne Bambara, du Bon Pasteur, est burkinabèse. Sa congrégation est présente dans 74 pays. Elle a ouvert en 2011 un centre à Bobo-Dioulasso, pour des femmes et des enfants à risque. Elle accueille ainsi, avec ses consœurs, des femmes victimes de mariages précoces et forcés ou des femmes rejetées par leur famille à cause de grossesses non désirées. Dulce Arojo l'a rencontrée.
Au Burkina, nous avons un centre d'accueil pour des femmes que nous accueillons sorties de la prison. Quelquefois, on leur accorde la liberté provisoire. Donc, nous les accueillons pour terminer leur séjour. Et ensuite, nous avons des femmes aussi et des jeunes filles qui sont exclues du giron familial à cause des grossesses précoces. Donc, la coutume ne veut pas, dans certaines ethnies burkinabées, que la fille qui tombe enceinte sans être mariée puisse accoucher à la maison. Donc, quand la fille tombe enceinte, elle est automatiquement rejetée de la famille. Donc, notre centre accueille ces filles-là jusqu'à l'accouchement. Et puis après, bon, nous faisons la médiation pour que les filles retournent chez elles. Nous avons aussi beaucoup de filles qui viennent des villages parce qu'elles ont été obligées à se marier avec des personnes très âgées. Elles sont victimes de mariages précoces et forcés. Donc, elles quittent le village fuyant ce phénomène-là. Et quand elles arrivent souvent en ville, elles n'ont pas où aller. Elles sont un peu désorientées. Donc, auparavant, beaucoup de filles se retrouvaient dans la rue et finissent très mal parce qu'elles se retrouvent dans la prostitution. Mais grâce à notre centre, des filles qui fuient les mariages précoces viennent à Bobo et sont accueillies chez nous. On fait des démarches ou bien on leur trouve du travail, elles font des formations. Il y a celles aussi qui sont victimes de trafic ou d'abus sexuels, les femmes employées des maisons. Alors, nous les accueillons aussi et puis nous faisons des démarches quelquefois en lien avec l'action sociale.
Donc, 3 ans de travail, quel bilan vous faites déjà de ce début d'un long chemin que je suppose vous allez faire avec les femmes du pays?
Nous avons travaillé à donner une certaine visibilité au niveau de la congrégation. Et pour ces 3 ans-là, nous avons donc établi des liens avec des organismes. J'ai parlé de l'action sociale. C'est très important, qui nous connaît, qui est vraiment un de nos partenaires. Nous travaillons aussi avec Terre des Hommes. Et nous avons pu établir donc ce centre d'accueil-là qui est déjà très reconnu au niveau de Bobo-Dioulasso. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Et déjà en 3 ans, nous avons accueilli presque 26 filles qui sont venues et qui ont trouvé vraiment un nouvel élan pour leur vie. En 3 ans, nous avons déjà formé 65 femmes en tissage, en couture, en teinture biologique qu'on appelle communément au Burkina le Brolan. Et nous avons établi 2 groupes de microcrédit. Donc 20 femmes qui bénéficient vraiment de nos aides à microcrédit. Et nous avons déjà commencé la construction d'un restaurant avec un volet formation en cuisine et pâtisserie. Alors donc les projets sont là et vraiment en 3 ans, je pense que déjà la congrégation a une bonne visibilité au niveau du Burkina Faso.
Le service que vous offrez déjà correspond au désir des femmes ou bien des filles ou bien elles vous demandent autre chose?
Quand nous sommes arrivés, on est parti du besoin vraiment du milieu. C'est vrai que établir un centre d'accueil pour des filles et femmes en difficulté, c'est quelque chose qui est une mission particulière de la congrégation. Au-delà de ça, c'est vraiment un besoin, un appel du milieu. Et le fait que nous ayons établi cela, nous voyons que ça répond réellement aux besoins de la population. Parce qu'il n'y a pas un centre similaire à Bobo pour accueillir vraiment des jeunes filles et femmes en difficulté, des filles qui sont dans la rue. Il y a des structures qui accueillent des garçons qui peuvent leur offrir les nuits, mais pour les filles, elles doivent se retrouver peut-être dans des bars ou dans des chambres de passage pour pouvoir passer la nuit. Il n'y a pas une structure établie pour dire qu'il y a une fille qui a des difficultés, qui est mise dehors et qui est capable d'aller se réfugier quelque part. Donc on peut dire vraiment que c'est un besoin local. Et au niveau des autres besoins aussi, c'est quand nous sommes arrivés, nous avons pris le temps pour discuter avec les femmes. Nous les avons écoutées, elles sont venues, elles nous ont exprimé certains besoins au niveau du microcrédit. Chacune venait de son côté pour demander de l'aide, prêtez-nous de l'argent parce que je veux commencer un petit commerce ou je veux renforcer un petit commerce. Mais nous sommes dit, on ne peut pas aller de façon individuelle. Mettez-vous en groupe et nous allons vous appuyer selon nos possibilités. Voilà, c'est comme ça qu'elles ont formé 2 groupes et on a aidé ces 2 groupes-là. Donc on peut dire que nous partons vraiment du besoin du milieu et puis nous essayons d'apporter notre pierre vraiment à l'édification des besoins des femmes.
Donc pour le moment, vous allez renforcer ces services que vous offrez déjà et qui satisfait les besoins du milieu, comme vous dites.
Nous allons continuer dans ce domaine, mais il y a d'autres projets aussi que nous avons. L'établissement d'un jardin d'enfants. Comme nous savons aussi, le Burkina Faso a pas mal de difficultés au niveau de l'éducation. Donc nous sommes beaucoup en retard par rapport à certains pays d'Afrique. Donc pour nous, il faut déjà donner le goût aux enfants, le goût aux parents aussi, d'envoyer les enfants à l'école et le goût de l'école aussi aux enfants dès le bas âge. Donc c'est une de nos préoccupations déjà pour établir un jardin d'enfants.
Des propos recueillis par Dulce Arujo de la rédaction Lusophone. Le voyage du pape en Terre Sainte du 24 au 26 mai reste au programme. Dans une mise au point publiée ce vendredi, le père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, a affirmé que ce voyage pontifical était toujours prévu. Des rumeurs d'annulation circulent en effet depuis jeudi à cause d'une grève qui se prolonge au ministère israélien des Affaires étrangères. L'édition anglaise du site The Times of Israel avait même annoncé l'annulation pure et simple du pèlerinage pontifical. Dans la matinée, le pape a reçu une délégation du Conseil œcuménique des Églises, le COE. Les divisions entre chrétiens ne doivent pas être vécues avec résignation, a affirmé le pape aux membres de cette délégation, menée par son secrétaire général, le pasteur luthérien norvégien Olaf Fixedveite. Les relations entre l'Église catholique et le COE, qui se sont développées à partir du Concile Vatican II, ont permis de dépasser les incompréhensions réciproques pour parvenir à une sincère collaboration œcuménique. Le chemin vers la communion pleine et visible reste cependant encore aujourd'hui ardu et en montée, a constaté le souverain pontife. L'Esprit Saint nous invite cependant à ne pas avoir peur et à avancer avec confiance. Le pape a aussi rappelé l'importance de la prière qui nous permet la clairvoyance et le discernement. Autre rencontre ce vendredi, celle entre le pape et Mgr Jean Abdo Arbar, archevêque d'Homs, des Grecs Melkites. Un entretien qui a duré une quinzaine de minutes. Mgr Arbar, que nous avons joint juste après l'entretien, nous a confié qu'il avait évoqué la question humanitaire dans le pays, le sort des chrétiens, leurs inquiétudes face à l'avenir, la foi qui les anime et l'espérance. Il a également fait part de la situation dans plusieurs villes syriennes et notamment à Homs où, a-t-il déclaré, il y a des morts tous les jours. Le pape, souligne-t-il, a écouté avec beaucoup d'attention et a manifesté sa proximité avec les chrétiens qui souffrent. Il a soutenu l'œuvre des chrétiens au Proche-Orient et en particulier en Syrie. Nous revenons aujourd'hui sur un des sujets abordés par le pape dans son interview accordée au quotidien italien Il Corriere della Sera, la Chine. Le pape a révélé avoir écrit personnellement au président chinois Xi Jinping, qui lui a répondu. D'où cette interrogation. Les relations entre le Saint-Siège et Pékin sont-elles sur la voie de la détente? La diplomatie du Saint-Siège mène depuis plusieurs décennies un travail de longue haleine pour l'autonomie de l'Église et la liberté religieuse en Chine. Cyprien Viette a interrogé Régis Anouilh, il est rédacteur en chef d'Église d'Asie, le journal des missions étrangères de Paris. Il connaît très bien ce dossier.
Il y a eu des contacts par le passé et la chronique de ces 20 ou 30 dernières années indique qu'il y a eu un certain nombre de contacts, y compris à haut niveau, entre le Saint-Siège et la Chine, mais des contacts qui n'ont jamais pu aboutir, et cette chronique a plutôt connu plus de bas que de haut.
Est-ce que depuis 2012-2013 et le changement de chef d'État à la tête de la République populaire de Chine, on a une inflexion positive ou pas sur la question de la liberté religieuse?
Il est encore très difficile de le dire, il ne semble pas dans la mesure où il y a un élément conjoncturel immédiat, c'est le raidissement de la situation avec les musulmans pour dans le Xinjiang, c'est la difficulté de la gestion du dossier tibétain. Et donc face à ces deux éléments, il y a peu de possibilités de voir la politique religieuse véritablement infléchie de manière générale. Maintenant, il y a néanmoins une réflexion à un plus haut niveau au sein des instances chinoises sur la place des religions et le rôle que l'État, ou en tout cas le politique vis-à-vis du pouvoir religieux, doit avoir. Donc il y a une réflexion de fond qui se mène actuellement en Chine, mais qui n'aboutit pas du fait de ces difficultés conjoncturelles liées notamment à la question du Xinjiang, donc de l'extrême-ouest chinois et du Tibet.
On sait que le nouveau secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin, est un très bon connaisseur des pays d'Asie, du Vietnam et de la Chine aussi. Est-ce que vous savez si dans les autorités chinoises, des gens le connaissent bien?
Oui, les gens le connaissent bien. Encore une fois, au plus haut niveau, il y a eu des contacts, donc les gens se connaissent bien. Personnellement, non, ils ne se connaissent pas si bien que ça, mais ils savent quelles sont les positions des uns et des autres. La Chine sait que le Vatican, effectivement, a une demande extrêmement forte en matière de liberté religieuse, en matière de liberté d'agir pour l'Église qui est en Chine. En face, le Vatican sait bien qu'effectivement, la question de la nomination des évêques est une question difficile, sensible, mais que l'on peut négocier, de même que la question de Taïwan, de la représentation diplomatique qui est à Taipei, et que le Saint-Siège a déjà à plusieurs reprise annoncée qu'elle pouvait être transférée du jour au lendemain, c'est l'expression qui avait été utilisée, à Pékin. Chacune des deux parties sait où l'autre veut aller ou ne peut pas aller, mais il n'y a pas encore véritablement de volonté politique d'avancer et cela se jouera sans doute au plus haut niveau du bureau politique du Parti communiste chinois.
Vous avez parlé de ce thème très délicat de la nomination des évêques. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien d'évêques sont en communion avec Rome et quelle est leur répartition territoriale? Est-ce qu'on en a une idée précise?
Non, la statistique est un peu difficile à établir. Il y a un grand nombre de sièges qui sont vacants aujourd'hui. Il y a des cas très délicats, très difficiles, douloureux même. Je pense bien sûr à l'évêque de Shanghai, l'évêque officiel de Shanghai, qui a été nommé en communion avec le Saint-Père, en accord avec le pape, et qui est empêché d'exercer depuis plus d'un an. Il est dans un état de quasi-résidence surveillée. Donc il y a de véritables difficultés pour le pouvoir chinois à concevoir effectivement une église qui soit pleinement autonome, qui soit pleinement libre de ses mouvements. Et c'est la question de la liberté religieuse qui, bien sûr, n'est pas tranchée et qui appelle de la part du Saint-Siège une volonté de voir effectivement cette politique bouger, sinon évoluer en Chine.
Régis Anouilh, le rédacteur en chef d'Église d'Asie, interrogé par Cyprien Viette. La vie de foi est strictement liée à la vie de charité envers les pauvres, a répété le pape ce vendredi matin lors de son homélie dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le christianisme n'est pas une règle sans âme, un précis d'observance formelle pour les gens qui, hypocritement, cachent derrière leur bon visage un cœur vide de charité, a-t-il souligné. Le christianisme est au contraire, a-t-il expliqué, la chair même du Christ qui s'abaisse vers ceux qui souffrent. Les évêques américains et mexicains au chevet des migrants latino-américains. Les deux épiscopats vont en effet se retrouver le 30 mars et le 1er avril prochain à la frontière, à Nogales, dans l'Arizona, États-Unis, pour marcher ensemble le long du mur qui sépare leurs deux pays et pour y célébrer une messe. Ils veulent, à leur manière, et dans la droite ligne du voyage du pape François à Lampedusa en juillet dernier, réveiller les consciences et rendre hommage, surtout, aux 6000 personnes originaires d'Amérique latine, mortes ces dernières années en tentant de rejoindre les États-Unis, et ce, dans l'espoir d'une vie meilleure. Marie Duhamel.
Un fleuve, un mur et le désert, c'est ce que doivent traverser les migrants clandestins qui veulent échapper à la misère et tenter le rêve américain. Un piège mortel pour nombre d'entre eux. Selon les évêques américains, ce voyage aux confins des États-Unis et du Mexique veut mettre l'accent sur la souffrance humaine causée par un système migratoire en échec. Au centre de leurs préoccupations, la dimension humaine de l'immigration, car il s'agit là de personnes et non seulement de thèmes économiques et sociaux. Ceux qui sont morts ou sont expulsés chaque jour ont la même valeur et la même dignité que Dieu a donnée à toutes les personnes, tient à souligner Mgr Elizondo, le président du comité pour l'émigration de la conférence des évêques américains. Et de comparer cette frontière terrestre à Lampedusa, l'île devenue symbole du drame de l'immigration clandestine entre l'Afrique et l'Europe. Le cardinal O'Malley, l'archevêque de Boston, sera notamment présent aux côtés de ses confrères mexicains des états limitrophes comme la Basse-Californie, le Chihuahua, le Tamaulipas ou le Nuevo León, autant d'états mexicains confrontés quotidiennement au drame personnel de ces migrants, souvent victimes des passeurs, des trafiquants de drogue et qui ne voient jamais la frontière américaine.
Marie Duhamel. À l'occasion du carême, nous vous proposons pour conclure ce magazine la réflexion de Mgr Dornelas sur ce temps qui nous porte vers Pâques. L'archevêque de Rennes nous parle de ce que représente le carême pour les chrétiens, battant en brèche l'idée d'austérité qui lui est attachée communément. Mgr Dornelas.
Je souhaite ce que souhaite Jésus lui-même pour chacun d'entre nous, pour tous les chrétiens et aussi tous ceux qui vivent droitement selon leur conscience, que nous nous convertissions, c'est-à-dire non pas que nous fassions une opération morale, mais que nous nous retournions vers lui. « Suivez-moi », est-il en train de nous dire. Dans le fond, le carême, c'est un moment qui nous est offert chaque année comme un temps favorable, comme un temps de grâce, comme un cadeau, comme une merveilleuse invitation à retrouver l'essentiel, à retrouver le cœur de nos existences, à retrouver la véritable espérance et peut-être singulièrement la grandeur de la charité. Bien sûr, nous sommes tous pris dans le stress de l'existence, dans les multiples activités qui sont les nôtres et parfois dans de grandes inquiétudes. Peut-être, en ce temps de carême, est-il bon que nous retrouvions l'essentiel qui est l'amour authentique vécu les uns pour les autres. Et à cet égard, il n'y a pas de petites choses. Tout acte d'amour en vérité, qui est un acte d'écoute, un acte de bienveillance, un acte où je regarde l'autre dans sa dignité, où je m'émerveille de l'autre, un acte où je pardonne, un acte où je me réconcilie, un acte où je donne de mon temps en me donnant moi-même pour les autres, dans ma famille, dans mon association, un acte où je suis vraiment bienveillant, c'est-à-dire un acte où mon cœur regarde les autres avec amour, à ce moment-là, je pense que nous faisons de grandes choses. Le carême, c'est un grand appel à aimer en vérité, et en définitive, c'est un grand appel à la sainteté, car notre bonheur se trouve dans la sainteté.
Mgr Pierre Dornelas, vous avez présidé la cérémonie des cendres ce mercredi à la cathédrale. Vous avez prêché autour de trois points fondamentaux du carême, donc la prière, le jeûne et l'aumône. La question que j'ai, c'est est-ce que le carême, c'est un temps qui doit être austère ?
Non, c'est un temps joyeux. Mais c'est un temps joyeux parce qu'on retrouve l'essentiel. Et quand nous sommes sur l'essentiel de nos vies, alors la joie, la vraie joie, fleurit en nous. C'est une éclosion extraordinaire de la joie. Bien sûr, il faut passer par la porte étroite. Ce n'est pas une joie superficielle, factice et facile. C'est une joie qui éclot au plus profond de nos cœurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits pour l'essentiel. Et si je vis l'aumône, si je vis le jeûne et si je vis la prière, c'est parce que je retrouve l'essentiel. Je vis beaucoup plus sobrement en faisant l'aumône. Et qu'est-ce que je retrouve ? Comme me l'a dit une mère de famille, j'ai retrouvé les valeurs, me disait-elle. Et ces valeurs, mais c'est les valeurs qui habitent notre cœur. Et notre cœur est heureux que quand il vit que de ces valeurs fondamentales du cœur humain, qui se résument dans la charité, si je peux dire.
Mgr Dornelas, archevêque de Rennes, il était au micro d'Étienne Pépin de RCF Rennes. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain même lieu, même heure.